I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Cyril Imbert, le fondateur de Dotemu, qui est une société de jeux vidéo spécialisée dans la réédition de classiques rétro sur les nouvelles consoles et les PC. Cyril vous raconte son parcours depuis ses études dans le jeu vidéo, sa première aventure entrepreneuriale qui s'est soldée par un échec jusqu'au rachat de Dotemu, puis son expansion récente. On parle aussi de l'importance de sa famille, de sa mère et de son père surtout, qui l'ont beaucoup aidé, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi dans le partage d'expériences. Il raconte aussi comment ils en sont venus à se lancer dans des licences plus ambitieuses que peut-être vous connaissez si vous êtes un gamer à l'ancienne, comme Wonder Boy, Pong ou Streets of Rage plus récemment, le pari risqué que ça représentait pour la boîte, et vous en apprendrez également beaucoup plus sur les spécificités de l'industrie du jeu vidéo. Un grand merci à Cyril pour son accueil et sa transparence sur son histoire et celle de son entreprise. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès, mais en attendant, je vous laisse en compagnie de Cyril.
Je suis très content parce que c'est l'une des toutes premières interviews que je refais en face à face, en fait, parce que j'ai fait plein d'interviews.
C'est la première personne qu'on accueille de l'extérieur depuis le confinement dans la boîte.
Je me sens privilégié.
Bon, on est avec Cyril. Salut Cyril.
Salut.
Ça va ?
Ça va.
Merci Cyril de nous recevoir. Donc, comme tu le disais, dans vos locaux là, chez Dotemu.
Ouais.
Pour expliquer un petit peu, Dotemu, c'est à la fois un studio de développement de jeux vidéo.
Ouais.
Et vous faites aussi
de l'édition. Ouais.
Faudra peut-être que t'expliques aussi
la
parce
différence.
Que franchement les gens je pense que sur l'histoire de succès ils savent pas forcément. Moi-même je suis pas sûr de savoir tu vois. Si développer c'est les jeux que vous développez vous-même et de l'édition c'est des jeux d'un autre studio que
pas
vous...
forcément en fait.
Tu vois, j'en sais rien. Ouais. On en reparlera plus tard. et l'idée c'est de en tout cas de venir te présenter un petit peu l'un des comment on pourrait présenter Dotemu en fait dans le paysage aujourd'hui, juste en quelques mots.
Dotemu, c'est une société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le rétro gaming. Donc on va travailler sur des jeux qui soit sont une licence connue ancienne, plus de 10 ans en général, c'est notre point de repère, qui existe déjà mais qu'on a envie de ramener sur le devant de la scène, ou travailler sur des nouvelles licences, mais qui ont un aspect, justement, dont les caractéristiques principales de ces jeux-là, de ces nouveaux jeux, se rapprochent beaucoup des jeux à l'ancienne. Quoi. Voilà.
Alors, les jeux à l'ancienne, par exemple, pour expliquer, c'est notamment tous les jeux qui n'étaient pas en 3D à l'époque, si je ne me trompe pas.
Voilà, alors maintenant, les jeux à l'ancienne...
c'est qu'on s'est vu
Voilà, c'est ça. Donc, non, tu peux avoir des jeux en 3D qui restent à l'ancienne.
Ah, oui.
Parce que tu vas avoir toute la génération PlayStation 2, Nintendo 64, et même quand tu vas arriver sur de la PlayStation 3, ça commence à être très vieux maintenant. Hein, ça fait plus de 15 ans, je crois. Hein, donc c'est pas mal. c'est des générations. Voilà. Après, c'est vrai que en fait, il y a eu une diversification des jeux. Plus on a avancé dans le temps, plus l'industrie a mûri, comme toutes les autres industries du divertissement. Elle s'est diversifiée pour répondre à des besoins complètement différents d'une personne à l'autre, quand ça s'est démocratisé. Donc aujourd'hui, il y a une beaucoup plus grande diversité. Mais donc, en fait, dans cette diversité, il y a un noyau dur, entre guillemets, qui est le rétro gaming, de là un peu où tout est parti. Et c'est là-dessus, nous, qu'on va se concentrer.
Okay.
Et c'est là-dessus qu'on va essayer, même sur des nouveaux jeux... de récupérer des bouts de ce noyau-là, parce que c'est un style de jeu, même si c'est le style d'origine, ça reste maintenant un style parmi d'autres. Voilà.
Alors, ce qui fait la spécificité du rétro gaming aussi, c'est que les joueurs de jeux vidéo ont vieilli.
Ouais.
Je sais pas quel âge t'as toi.
Moi j'ai 33 ans.
Ouais, t'es tout jeune parce que moi j'ai 42 balais, tu vois, j'avais la Sega Master System
ouais,
chez
ouais,
moi
bien sûr.
Et la Nintendo, enfin
ouais.
la NES. Et en fait c'est vrai que il y a une forme de nostalgie aussi qui repointe le bout
ouais,
de son nez chez pas mal de trentenaires quoi. Quadra.
Ouais, ouais. Alors, en fait, au-delà de la nostalgie, t'as un phénomène tout à fait naturel qui se met en place. Qui est que, comme dans toutes les autres industries du divertissement, que ce soit le cinéma, le théâtre, l'art en général, au début, tu vas avoir quelque chose de... Quand l'art se crée, entre guillemets, tu vas avoir des choses très classiques, entre guillemets, très encadrées dans un style. Et petit à petit, les créateurs vont avoir d'autres idées, vont construire par-dessus... vont diverger, parfois on va avoir des idées un peu folles qui vont elles-mêmes créer d'autres branches, etc. Et donc du coup, tu vas avoir une diversification et jusqu'au point même où parfois on va oublier ce qui était le style classique d'origine. Mmh. Parce que on a tellement de diversité et puis il y a des nouveaux genres qui sont prédominants que du coup on va finir par oublier ça. Mais il y a des gens qui n'oublient pas parce qu'ils l'ont vécu et que en plus de ne pas oublier ce genre de ce style, ça va aussi leur rappeler un peu à la Madeleine de Proust, des périodes de leur vie agréables. Et donc, ils vont vouloir y revenir. Mais c'est comme... Il y a encore des gens aujourd'hui qui écoutent les Beatles, je veux dire. Et il y en a beaucoup. Et pas que des vieux. Donc, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des titres de qualité qui ont été faits à la création de jeux vidéo. C'est une industrie extrêmement jeune. Hein. C'est à moins de 40 ans. Un petit peu plus, enfin légèrement moins de 50 ans on va dire, ouais. Mais bon, à l'époque il y avait vraiment rien du tout quoi, ça a vraiment commencé à se développer d'ici les 20 dernières années en
ouais,
fait hein. Donc par rapport à d'autres arts ou divertissements comme le cinéma, la musique, c'est hyper jeune. Donc mais déjà voilà, il y a les nouvelles générations de joueurs ne connaissent pas forcément les jeux qui ont commencé l'industrie, mais pourront toujours les apprécier en fait. C'est juste qu'il faut les aider au même titre que dans le cinéma, on va faire des remasters, on va passer des vieux films en Blu-ray, on va remasteriser le son, on va carrément faire des suites au cinéma hein, comme Disney fait par exemple. Bah ça va être justement pour entre guillemets attirer un public peut-être habitué à autre chose, plus jeune. Mais pour quand même partager le plaisir de ces titres-là de l'époque. Quoi.
On en reparlera un petit peu après, parce que comme le jeu vidéo a beaucoup changé, les joueurs aussi ont beaucoup changé.
Ouais.
Et c'est vrai que quand moi je retombe sur des vieux jeux rétro gaming, je me dis putain, mais c'était tellement dur à l'époque. C'est ouf par rapport aux jeux vidéo qui sont devenus aujourd'hui plus faciles, plus abordables. Et de se dire, alors ça fait partie des. Je pense qu'il y a tout un bail de gamers qui disent c'était beaucoup mieux. C'était mieux avant.
Mais comme pour la musique, comme pour le cinéma, comme tout ça, il y a toujours des gens qui vont dire c'était mieux avant. Avant on n'avait pas ci, avant c'était comme ça. Avant les gens ils savaient vraiment faire de la musique. Avant le cinéma c'était pas un truc que de blockbuster américain. Voilà. Au final c'est partout pareil et c'est pas forcément vrai. Et effectivement il faut pas oublier son passé, mais il faut aussi être lucide sur le présent. Et au final par exemple tu citais l'exemple de la difficulté des jeux. Effectivement en fait on pourrait se dire que les jeux sont plus faciles aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait vrai parce que en fait les gros blockbusters qui doivent plaire, qui coûtent des centaines de millions d'euros et qui coûtent des centaines de millions d'euros en marketing, eux ils doivent plaire au plus grand nombre et donc ils doivent être aussi amusants pour quelqu'un qui joue une heure par semaine que pour quelqu'un qui en joue 25 par semaine quoi. Et donc du coup le niveau de difficulté doit être hyper s'adapter à fond et donc forcément quand tu prends le jeu en main tu dis c'est beaucoup plus facile que ce que les jeux qu'il y avait avant, mais inversement tu vas avoir quand même des gros blockbusters donc notamment type Dark Souls qui est un jeu qui s'est vendu à des millions d'exemplaires
dont le but est clairement de mourir,
c'est hyper dur. Et donc ça revient, c'est des modes en fait hein, c'est des façons de consommer qui évoluent avec le marché, qui fluctuent en fonction des besoins des gens, de leur mood, des communautés qui se forment, etc. Voilà. Rien n'est fixe en fait.
C'est marrant parce que donc mes filles ont la Switch et elles ont joué à Super Mario Galaxy.
Ouais.
Et tu sais, tu meurs pas. Enfin, c'est très dur de mourir dans Super Mario Galaxy.
Ouais.
Enfin, à chaque fois que tu tombes, tu perds juste des pièces et tu reviens quoi.
Bien sûr.
Et en fait, je les ai foutues sur Super Mario 3 pour leur dire regardez en fait, à l'époque, regardez-moi quand vous avez votre âge, comment, à quoi ça ressemblait Mario. Et en fait, elles étaient désarçonnées quoi. Vraiment, elles étaient là, mais en fait, on peut tomber qu'une fois et après.
Il faut recommencer. Ouais.
Et oui.
Ouais. Mais tu vois, inversé. Moi, je sais que mes neveux, par exemple, qui sont très jeunes, hein, qui ont 4-5 ans, en tout cas, au moment où on a vraiment essayé de commencer à voir si ça leur plaisait ou quoi, ils avaient vachement de mal, typiquement, sur les jeux un peu plus récents, avec tout ce qui est perspective 3D, les mouvements de caméra, etc. C'était très compliqué pour eux. Et en fait, nous, on n'a jamais connu ça quand on avait leur âge, parce que nous, c'était de la 2D, droite, gauche, sauter, point. Donc c'est facile, il y avait trois commandes.
C'est vrai.
Et donc au final, cette simplicité, elle fait que le jeu est plus abordable. Par contre, il reste plus frustrant. Ça dépend à quoi l'enfant a été habitué. Mais d'un point de vue purement spatialisation, compréhension de la position dans l'espace, et puis les possibilités qu'offre le jeu en termes de gameplay, les jeux anciens sont parfaits pour les enfants, en fait. Parce que voilà, il y a rien à comprendre, c'est tout de suite on joue. Bon voilà, après c'est d'un point de vue graphisme, forcément c'est un peu décevant pour un enfant, mais au final au bout d'un moment il s'habitue et ça lui plaît, et voilà quoi.
Ok, bon, on reparlera un petit peu aussi de pourquoi vous avez décidé de remettre à la mode des jeux rétro.
Ouais.
Mais la première question que je pose en général à mes invités, mais là on a un peu dévié, mais c'était hyper intéressant.
Ouais.
C'est en fait à quoi ressemblait Cyril quand tu avais 7-8 ans?
Moi j'ai toujours joué aux jeux vidéo, j'ai pas trop de souvenirs de moi ne pas jouer. Donc quand j'avais cet âge là j'avais déjà à 5-6 ans, je pense que j'étais à la Mega Drive, mais j'avais déjà eu la Master System avant, la Game Gear, j'étais très Sega moi.
Ouais.
J'avais un pote qui avait un Mac aussi, je me souviens, son père avait un Mac, c'était complètement fou. Donc j'avais des premiers jeux PC, je me souviens que moi-même donc c'était peut-être un petit peu plus tard quand même, j'étais peut-être déjà au collège à ce moment-là, mais enfin voilà, j'ai toujours été attiré par ça, et ça n'a pas changé depuis quoi. Voilà.
Et en termes de personnalité?
J'étais plutôt un petit garçon confiant, pas méchant, et qui avait envie de faire plein de trucs, et surtout de faire des conneries avec ses potes quoi. Mais
et tu jouais aux jeux vidéo avec tes potes aussi?
Ouais, carrément. Ouais.
Ça faisait partie.
Ça faisait vraiment partie des choses que je faisais avec mes potes. Des activités qu'on avait et qu'on a toujours eu d'ailleurs, et que j'ai encore aujourd'hui, hein. Pendant le confinement c'était la folie, on n'arrêtait pas quoi, on faisait que ça quoi.
Tu jouais en ligne de ce fait-là?
Du coup maintenant on joue en ligne, ouais.
Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, moi, que je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais j'ai un peu arrêté moi les jeux vidéo entre mes 16 et mes 22 quoi, tu vois, l'âge adulte.
Ouais.
Et en fait je me suis remis quand le live est sorti, tu vois, le Xbox Live est sorti à l'époque.
Okay.
Et je me suis dit ok, c'est cool, ça permet de pouvoir rejouer alors sans être tous dans la même pièce, tu vois, c'était plus compliqué.
Bien sûr, mais voilà, tu vois, ça c'est encore un autre usage qui est apparu. Mais au final aujourd'hui typiquement t'as toujours un contre-coup à ces nouveaux usages, c'est-à-dire que aujourd'hui la grosse majorité ça va être le jeu en ligne, parce que c'est facile, t'as pas besoin d'avoir d'amis, t'as pas besoin de t'organiser pour te retrouver au même endroit, etc. Et tu peux quand même partager une expérience avec une intelligence qui n'est pas artificielle, et ce qui donne une sensation beaucoup plus forte que quand tu sais que c'est pas un PC derrière, que c'est quelqu'un qui joue, ça c'est complètement différent le feeling, que tu le connaisses ou pas d'ailleurs. Quand tu le connais, bien sûr, c'est encore mieux en général, surtout si tu peux dialoguer avec lui ou elle. T'as, en contre-coup de ça, typiquement aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui redemandent justement à avoir des jeux qui puissent jouer en famille, avec leurs amis, avec leurs conjoints, conjointes. T'as cette espèce de contre-coup justement où les gens ils disent ouais, mais voilà, moi j'aimerais bien juste avoir un jeu qui est fait pour que je passe un bon moment en vrai avec des potes pendant l'apéro, avec la famille le soir de Noël, avec je sais pas quoi. Voilà.
C'est vrai qu'il y en a plus beaucoup là.
Il y en a plus beaucoup. Il y a des boîtes qui continuent vraiment d'aller à fond là-dedans, type Nintendo. Hein, ils continuent d'avoir beaucoup de jeux qui se jouent en local, alors qu'ils font du online aussi. Mais c'est pas clairement pas leur focus, quoi. Ils sont obligés de le faire mais ils continuent de pousser du jeu en local et des expériences en local. Et puis t'as beaucoup de jeux indés aussi qui prennent ce créneau-là, de dire on va essayer de proposer une expérience rigolote à plusieurs en local. Même si ça se perd un peu, ça survit. Et je pense que ça survivra pour toujours, quoi. Voilà.
Comment tu décides, alors juste pour retracer un petit peu ton parcours scolaire, mais tu fais quoi, collège, lycée,
Parcours scolaire assez classique. Je viens d'une famille assez aisée, donc j'ai pas eu de grosses difficultés. J'ai fait maternelle, primaire, collège, lycée. J'ai fait collège, lycée dans un lycée catholique hardcore à Versailles.
Oh.
C'était un peu bizarre parce que mes parents sont pas du tout pratiquants, c'est juste parce que c'était un bon lycée, et ils s'étaient dit que si j'allais pas là-bas j'allais faire n'importe quoi.
Okay.
Ils ont probablement eu raison, parce que j'ai quand même fait n'importe quoi là-bas.
C'est-à-dire t'étais sans doute encore plus en rébellion, non?
Au moins j'étais bien cadré, j'avais des coups de pression parce que pas que de mes parents mais aussi de l'administration entre guillemets, c'était pas plus mal je pense. Parce que je suis pas un énorme bosseur de base, sûrement par le fait que je viens d'un milieu aisé aussi où on m'a pas forcément appris qu'il fallait aller chercher les choses quoi. Mmh. Donc c'est pas plus mal, ça m'a bien cadré. Et je me suis fait un super groupe de potes aussi à l'époque qui aussi étaient pas forcément dans le délire du lycée, etc. Donc ça nous a vachement rapprochés. J'ai fondé un groupe de métal à l'époque. Enfin bon, c'était, voilà. Tu vois bien le cliché, quoi, du petit rebelle dans le lycée catho, alors qu'au final, dans les autres lycées, je me serais fait marave. Tu vois, voilà, quoi. Mais non, voilà, en fait, c'est plutôt un schéma classique. Et puis après, école de commerce, hein, pas de grosse surprise non plus, tu vois. Je, bien sûr, et l'école et mes parents auraient aimé plus ou moins. Enfin, ça leur a rassuré que je fasse une prépa, etc. Sauf que j'étais vraiment pas du tout bosseur. Heureusement, j'avais un petit peu de facilité, donc j'arrivais à me démerder. Mais vraiment, enfin, ça c'était pas pour moi, quoi. Donc, j'ai réussi à trouver école de commerce post-bac.
Et tu le regrettes un peu avec le recul là de pas avoir taffé.
Je pense que non, je regrette pas du tout. Genre je suis vraiment content. Au contraire, peut-être que si j'avais pu encore moins taffer, tu vois, ça aurait été. Non, mais franchement, je regrette pas. Après, voilà, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Mais du coup, ouais. Après, donc école de commerce. Ce qui était cool, du coup, c'était que à l'époque, les grandes écoles de commerce te faisaient pas forcément énormément voyager. En général, ils avaient 6 mois de stage à l'étranger, et c'est tout. Ou certains trucs optionnels. Mmh. Mais moi, je suis tombé sur une école à Rouen, dans laquelle c'était obligatoire de partir. Et très tôt, en deuxième année. Donc, quand j'avais 20 ans, hop, au revoir. Donc déjà, à 19 ans, je suis parti de la maison pour aller à Rouen. Et puis, à 20 ans, je suis parti de France pour aller en Californie pendant un an.
T'avais la sensation que tes parents te couvaient un peu auparavant, c'est ça?
Ouais, j'ai toujours cette sensation, hein, mais ça, puis tu vois, il y a un épisode après qui a été décisif dans tout ça, okay. Et c'est parce que ma mère me couve, tu vois, mais c'était plutôt une bonne chose, du coup.
Okay.
Mais ouais, non, c'était une super expérience, effectivement, dans le trip où je me suis retrouvé complètement livré à moi-même dans un pays que je connaissais pas, à des milliers de kilomètres de chez moi, avec personne que je connaissais d'ailleurs du tout, hein. Quand j'ai débarqué en avion, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin, voilà. Et donc, ça a été une super expérience. Et puis, comme c'était une école qui vraiment poussait là-dessus, je suis reparti encore après en Espagne cette fois pour travailler cette fois en stage. Pas du tout dans le jeu vidéo. J'étais chez La Fourchette, l'équivalent de La Fourchette en Espagne.
Ok.
Et puis voilà. Mais ça a été vraiment une scolarité intéressante parce que au-delà du fait que moi-même je suis parti à l'étranger, du coup, comme c'était obligatoire, toute la promo est partie. Donc en première année, si tu veux, on a fait connaissance. Donc c'est des gens qui venaient de plein de milieux différents, quand même plutôt globalement des milieux aisés, hein, on va pas se mentir, mais quand même des milieux plutôt ruraux, plutôt urbains, plutôt aisés ou moyennement aisés, etc. Donc ça c'était intéressant. Mais à partir du moment où on est tous partis à l'étranger, tout le monde est revenu encore différent, quoi, avec vraiment des personnalités. J'ai vu des personnalités vraiment changer du tout au tout. Et comme on partait tous dans des pays différents quasiment, hein, y avait des espèces de clusters où vraiment il y a beaucoup de gens qui allaient, mais au final, c'était assez bien réparti. Il y a des gens qui sont partis en Inde, d'autres en Estonie, d'autres en Afrique. Et donc, chacun a vécu des expériences assez uniques et est revenu avec une ouverture beaucoup plus grande qu'à la base. Et donc, quand on s'est tous retrouvés, après, on s'est mis à échanger nos expériences. Et ça, c'était hyper enrichissant. J'ai vraiment adoré donc la troisième année. Et en quatrième année, on est tous repartis. Avec déjà ce bagage-là, avec tous les échanges qu'on avait fait, etc. On est tous repartis. Là, c'était pour travailler cette fois, pas pour étudier. Et donc ça a été encore une autre expérience. Voilà, moi donc, en Espagne, ça m'a permis d'apprendre l'espagnol que je maîtrisais pas du tout bien, alors que j'en avais fait genre 10 ans entre le collège machin et tout, c'était l'enfer. Mais en 3 mois, ça s'est fait vite, quoi. Et ça aussi, t'apprends qu'au final, les langues ça va assez vite si tu t'y mets. Et c'est pas la peine de faire 10 ans de cours, quoi, tu vois. Ça aide un peu, mais voilà. Et puis donc là, pareil, hein, ça a permis aussi de s'ouvrir beaucoup. Je pense que la Californie, ça a été décisif aussi dans l'idée que de l'esprit d'entrepreneuriat. Mon colocataire Arthur, qui est russo-américain, lui, dans sa culture, c'est vraiment l'entrepreneuriat, de toute sa famille, de toute sa communauté.
Tes parents sont pas entrepreneurs?
Si, aussi, mais okay. Pas pareil, tu vois. Et puis il me poussait pas du tout à ça, tu vois.
Ouais.
C'est quelque chose que j'avais vraiment dans la tête depuis un certain temps, mais j'ai eu un déclic en Californie, vraiment. Parce que au-delà, en plus, t'as tout l'environnement, surtout en Californie, ouais. Où c'est vraiment hyper mis en avant. Et Et c'est hyper démocratisé, quoi. C'est pas du tout réservé à l'élite ou quoi, ou à vraiment des gens qui en veulent à fond. C'est potentiellement n'importe qui va faire ça et tout le monde va échanger là-dessus, pas du tout être en mode genre ah mais attends je vais pas trop en parler parce que si ça marche pas je vais avoir honte etc. Les gens s'en fichent complètement. Il y a un esprit vraiment différent et un espèce d'optimisme constant chez tout le monde en fait qu'on n'a pas du tout ici quoi. Qu'on a beaucoup moins ici, presque pas beaucoup.
Voilà.
Donc, et ça m'a vraiment, je me suis dit mais en fait et puis ça m'a fait aussi comprendre la valeur de l'entrepreneuriat dans le sens où on peut vraiment potentiellement faire de l'argent avec ce qu'on aime et c'est pas du tout incompatible. Au contraire, c'est vraiment pour moi le but ultime, c'est pouvoir s'enrichir d'un point de vue financier en s'enrichissant d'un point de vue personnel, quoi. C'est pas du tout incompatible parce que tout est possible en fait et c'est là-bas, c'est ça qu'on apprend là-bas en fait. Même si c'est pas forcément la réalité des choses et que tout dépend de la chance qu'on a dans la vie, mais quand même il y a cet esprit-là et là ça a été assez décisif et puis ça m'a suivi ensuite, ça a confirmé en fait l'idée que j'avais envie de faire justement comme mon père ou ma mère, être voilà maître de mon destin et monter ma boîte quoi, voilà.
Ils font quoi comme
Alors mon père, lui, il a été entrepreneur quasiment toute sa vie, mais lui, il a commencé il avait des parents d'un milieu très pauvre. Mon grand-père savait pas lire, par exemple. Il était boulanger, ma grand-mère était couturière. Donc lui, il a eu vraiment une enfance pas forcément pas difficile, mais assez d'un milieu assez pauvre. Donc il a eu de la chance dans les choses qui se sont passées, mais il a dû beaucoup se battre et justement revenir sur certains choix qui étaient pas forcément les bons, etc. Jusqu'à ce qu'en fait des gens dans les différentes expériences qu'il a eues repère qu'il avait un talent pour manager, pour établir des plans stratégiques, pour etc. Et il a commencé vraiment à pouvoir développer ces talents-là. Et puis ça c'était mais entre temps il a fait un doctorat en physique quoi, enfin par exemple, enfin, rien okay. à voir, mais bon c'était pas ça qu'il voulait faire, ça l'intéressait vachement, mais ce qui lui plaisait vraiment en fait c'était l'entrepreneuriat et le business. Et donc voilà, et après lui sa spécialité ça a été la reprise de société.
Okay.
Donc il venait, il arrivait sur des sociétés qui étaient plus ou moins en forme et il les remettait en forme, voilà, et avant ça encore il dirigeait des départements de grands groupes ou des succursales okay. de grands groupes. Voilà, et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère, qui elle est plutôt RH.
Ok.
Voilà, direction des ressources humaines chez Philips notamment pendant un certain temps. Ils se sont rencontrés comme ça, ils sont D'accord. tombés amoureux au travail. C'était pas évident, ils avaient déjà des enfants chacun de leur côté. Enfin voilà.
Oh.
mais voilà, les deux vraiment justement se comprennent et s'entendent beaucoup sur le travail, se soutiennent l'un l'autre. Et moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Ils sont très positifs les deux aussi et du coup très dans la confiance et tout, donc voilà, c'est mes parents donc sont quand même eux-mêmes déjà dans cet esprit entrepreneurial, même si au final mon père était pas forcément voué à ça de base, mais ça lui est venu et il m'a un peu sûrement transmis le truc sans vraiment le vouloir, je pense, hein, c'est voilà.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Comment ça se passe alors quand tu sors de ton école de commerce pour finir par te dire ok, je vais monter un studio de jeux vidéo, mon objectif c'est de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est ma passion aussi. Enfin, j'imagine qu'à l'époque t'es toujours accro aux jeux vidéo d'une manière ou d'une autre, enfin tu continues à jouer quoi.
Bien sûr, ouais. Ouais, je continue à jouer et puis en fait à la fin de mon école de commerce, donc c'est un bac plus 4, un bachelor. Et mais du coup, je me disais bon bah potentiellement j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent me soutenir financièrement. Je suis pas forcément pressé de choper un job tout de suite. Donc autant faire une cinquième année et une spécialisation dans quelque chose qui me plaît. Et donc ce qui me plaisait à l'époque, j'avais envie d'être entrepreneur. Donc je voulais faire une formation en entrepreneuriat web, technologie. Je voulais plutôt travailler dans les technos parce que c'est mon truc. Je suis un peu un nerd quand même. Et ça me plaisait. Et voilà. Donc j'avais repéré, bien sûr, j'essayais de viser le top, Donc j'avais vu, je crois Oxford, ils avaient un super programme, Stanford aussi, etc. Bon, c'était hyper chaud, je sais pas si j'aurais été pris, mais je commençais à faire les démarches. Et en fait, ma mère en avait marre que je parte à l'étranger. Et donc elle disait, ouais, mais bon, tu pourras trouver un truc en France quand même et tout. Je dis, ouais, mais ça m'intéresse. Enfin, ce qu'il y a en France, ça, j'ai envie, quitte à faire un truc comme ça, autant le faire à l'étranger. Et puis, elle, en fait, à l'époque, elle commençait à coacher les managers chez Ubisoft. Elle fait du coaching en management depuis très longtemps, après avoir été à la DRH de Philips. Elle s'est spécialisée dedans. Elle commençait chez Ubisoft. Ubisoft commençait à mettre en place elle a formé des centaines de managers chez Ubisoft. Mais voilà, et donc du coup elle a dû en parler autour, et comme moi elle sait que voilà, hein, j'ai redoublé ma seconde à cause des jeux vidéo, enfin voilà, il n'y avait pas de secret, hein, je suis un gros fan de jeux vidéo et ça m'a jamais quitté. Elle m'a dit, mais regarde ce que j'ai trouvé et tout, il y a une école qui fait une formation jeux vidéo à Paris, machin, et elle m'a montré l'espèce de dépliant quoi. Et j'ai regardé le truc, je me suis dit, mais c'est trop bien quoi, genre, on peut faire ça vraiment, genre ouais, ok, trop cool. Donc j'ai direct postulé à ça, j'ai eu un entretien très rapidement, ils m'ont pris, et c'était un MBA donc en production de jeux vidéo à la Défense, à l'IEM. Je crois que ça a changé de nom maintenant, mais voilà, c'est une école multimédia production qui venait de créer, ça faisait 2 ans que ça existait quand je suis arrivé. Une formation spécialisée dans la production de jeux vidéo et dans le business du jeu vidéo, hyper complète, où tu rencontres plein d'intervenants professionnels qui viennent du milieu et qui t'expliquent tous les penchants du métier, comment ça fonctionne, pour justement être un bon producteur, parce que pour être bon producteur dans le jeu vidéo, il faut comprendre vraiment tous les aspects du métier. Et voilà. Et donc c'est comme ça que ça m'a propulsé là-dedans. Je pensais pas que je pourrais faire ça. J'avais même pas pensé aux jeux vidéo, parce que pour moi il fallait être artiste ou programmeur pour travailler dans le jeu vidéo.
Ah yes.
Quitte à peut-être évoluer après au sein du jeu vidéo, mais de base je me voyais pas. J'avais pas conscience vraiment qu'on pouvait faire ça. Et qu'il y avait autant de métiers en fait possibles quoi pour moi qui était ni artiste ni technicien quoi.
Oui, pour expliquer un petit peu, il y a plein de métiers qui sont des métiers de marketing, de bureau,
marketing,
de bureau classique entre guillemets, quoi.
Gestion de projet. Il y a une diversité de métiers dans le jeu vidéo qui est incroyable. Et donc ça, je savais pas vraiment. Et puis d'autant plus que je pensais pas qu'en école de commerce on pouvait accéder à ces positions. Alors qu'en fait, si, c'est logique. Enfin, maintenant ça me semble hyper logique, mais à l'époque ça me semblait pas si logique que ça.
Tu disais que ta voie c'était plutôt d'aller dans les grands groupes, c'est ça?
Voilà, c'est ça, dans les grands groupes. Et puis que c'était très difficile d'entrer dans le jeu vidéo, justement parce que il fallait plutôt avoir un background artistique ou technique. Mais en fait non. Et du coup, j'étais hyper content. Et donc j'ai fait pendant cette année-là, on devait non seulement faire un projet, un faux projet qu'on devait soumettre au CNC, mais donc on soumettait pas au CNC, mais monter un dossier de production de jeux vidéo. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que tous les intervenants suivaient ça, nous aidaient à le faire, etc. Donc c'était ça pour notre examen un peu de l'année. Et puis on devait aussi donc faire la moitié du temps un stage dans une entreprise de jeux vidéo. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire chez Ubisoft. Et de le faire en plus avec la personne avec qui je faisais mon faux jeu sur l'année, qui lui aussi est parti chez Ubisoft, moi au marketing, lui en production. Et voilà, et là ça a été vraiment le déclic en mode bah voilà, c'est ça que je veux faire, c'est super. Quand je suis arrivé chez Ubisoft, j'étais en mode ah, c'est génial quoi, genre j'étais un peu triste d'être très éloigné du produit au marketing quand même, parce que c'est vrai qu'on j'ai pas du tout vu l'aspect de prod, mais du coup en cours je l'avais beaucoup appréhendé cet aspect, et puis je le vivais à travers mon camarade de classe qui est devenu ensuite mon associé, donc voilà. Mais ouais, c'est là où je me suis dit bah c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs, et ma mère a gagné, je suis resté en France du coup. Et voilà, et puis voilà, et puis ça c'était mes études quoi.
T'es resté là combien de temps alors chez Ubi?
Je suis resté 6 mois.
Ok.
Et ensuite j'ai monté ma boîte.
Ah, tout de suite à la sortie alors.
Tout de suite. Ok. J'ai monté ma boîte et à partir du projet qu'on avait fait pendant notre MBA, beaucoup d'intervenants nous ont dit ouais, c'est trop cool comme projet, faudrait que vous le fassiez en vrai si vous avez la possibilité de le faire. Bah, moi il a pas fallu me le dire 3 fois quoi. J'ai fait ok, ça marche, c'est parti. J'ai réussi à convaincre mon père encore plus facilement comme ça de me filer un peu de blé pour commencer. Et voilà, et donc ouais, c'est j'ai travaillé chez Ubi 6 mois. Après, ils m'ont proposé de rester, mais moi je voulais monter ma boîte, donc je leur ai dit ok, mais à mi-temps. Et puis ils ont dit bah à mi-temps c'est pas possible. Donc j'ai bon bah ok, au revoir alors. Tu vois.
Ok.
Et
donc t'avais vraiment pas juste cette volonté de, ouais, de bosser dans le jeu vidéo comme tu étais chez Ubisoft, non, parce que j'allais dire Ubisoft c'est quand même une immense boîte.
Ouais, c'est clair. Où tu peux faire une des super carrières, quoi.
Voilà.
Ouais, ouais, carrément.
Mais je pense assez loin de l'aspect d'entrepreneur de ce
bah, thème. Clairement. Il y a aujourd'hui il y a plus de 20 000 personnes chez Ubisoft, quoi. Donc t'imagines. C'est vraiment un autre délire, hein. C'est, et puis c'est d'autres produits et tout, donc il y a des aspects positifs, des aspects négatifs, mais par rapport à mon projet de vie et mes envies profondes, ça collait pas forcément. Et c'est pas plus mal parce que je me disais de toute façon, j'étais à l'époque j'avais 24 ans, 24-25 quoi, et je me disais bah de toute façon si je le fais pas maintenant, après je le ferai pas quoi.
Ouais, c'est sûr.
Je serais installé dans ma position, dans ma carrière, sortir d'une carrière, repartir avec un salaire nul pour faire sa propre boîte, c'est vachement plus difficile que de partir de base si on peut se le permettre, évidemment. Voilà. Et donc, comme je pouvais, grâce à mes parents, me le permettre, je me suis dit, bah, vas-y, on le fait, quoi. Voilà.
Donc, c'est parti.
Et donc, c'est parti.
Mais donc, comment t'arrives à. Enfin, je veux dire, c'était aussi déjà une histoire entre vous avec ton associé, c'est ça, de monter votre boîte ensemble.
Ouais.
C'était déjà.
En fait, on avait monté le projet ensemble, on s'entendait hyper bien sur plein d'aspects. C'est quelqu'un de donc Kevin Goyon, c'est quelqu'un de très intelligent, très malin, qui comprenait beaucoup de choses et qui avait aussi envie de faire plein de choses comme moi, qui avait envie de vivre une expérience d'entrepreneuriat.
Qui pour lui, alors lui c'est plutôt l'aspect artiste, c'est ça, de
lui
de
c'était
votre duo.
Plutôt effectivement l'aspect production.
Okay.
Puisqu'en plus c'était vraiment l'expérience professionnelle qu'il avait eue, hein. Moi j'avais eu plutôt côté marketing, même si au final bah on s'est retrouvés tous les deux à faire un peu tout, hein,
ouais.
Tu vois, on se séparait quand même un peu l'état, je me souviens plus exactement si on avait une séparation claire, mais il me semble que oui, hein, sur les statuts on avait quand même fait en sorte que certaines décisions appartenaient à l'un ou à l'autre.
Ah, vous l'aviez notifié dès les statuts,
ouais,
en fait,
me semble,
pour,
si je me
tout.
Souviens bien.
Ouais.
Mais ça, c'est parce que c'est l'expérience de mon père, tu vois. Il m'a dit, bah, il faut que ce soit
il
clair.
Faut tout blindé.
Ouais, c'est clair. Sinon, ça peut vraiment vite partir en sucette. Ce qui a été le cas pour plein de potes qui ont monté des boîtes après, voilà. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'en discuter il y a pas longtemps. Il est en train de s'embrouiller avec son associé. C'est l'enfer. Donc voilà. Donc on était parti là-dessus sur un premier projet. Donc on partait sur ce projet fictif qu'on avait fait avec notre MBA. Et puis on s'est dit, bah, on va vraiment le faire maintenant, quoi. Pendant un an, on avait travaillé dessus juste nous deux. Et puis, on s'est dit, bah, on va prendre un peu de sous et puis commencer à recruter, pour commencer à faire du prototypage, etc. Voilà. Bon, au final, le premier jeu nous a coûté 90 000 euros, un truc comme ça, sans qu'on se paye nous. Juste en payant des prestats, des gens qu'on a embauchés, des CDD, des choses comme ça, mais en payant que dalle, quoi. Enfin, vraiment n'importe quoi. Les locaux, c'était chez moi, dans mon appart. Tous les matins je sortais la table de réunion, je l'installais, les gens venaient travailler le soir, je rangeais tout. Enfin, c'était rigolo, c'était vraiment l'expérience du coup de home office total, quoi, tu vois, c'était vraiment l'office dans la maison, quoi, avec tout le monde. On a fait ça pendant 2 ans à peu près.
Ah,
où,
ouais. 2 ans à bosser de chez toi, quand
ouais,
même. C'est chaud.
2 ans à bosser de chez moi sans salaire. Donc heureusement, merci papa, merci maman, parce que sinon ça aurait juste pas été possible, quoi. Ou alors il aurait fallu mettre plus d'argent, ça revenait plus ou moins au même, quoi. On a fait quand même, mon associé quand même a réussi à travailler à mi-temps dans une autre boîte de jeux vidéo, mais c'était compliqué, donc moi il fallait que je reste quand même à full time pour recevoir tout le monde tous les jours, les employés, etc., les prestats. Voilà, ça a été très compliqué, mais c'est une super expérience parce que du coup on s'est vraiment tous les deux insérés dans le milieu parisien du jeu vidéo, dans le milieu national du jeu vidéo, à rencontrer plein de personnalités, plein de gens intéressants qui nous ont beaucoup appris, notamment Fabien Delpiano de Pasta Games, qui nous a vraiment soutenus, qui a joué un rôle de mentor vraiment hyper important pendant toutes ces années-là, et encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, et en fait le jeu qu'on avait fait donc comme projet, on a réussi à le faire, on a réussi à le sortir. Donc c'était un jeu mobile, c'était une dating sim.
OK.
C'était un jeu en fait dans lequel tu apprenais à draguer.
OK.
Voilà, avec des vraies études psychosociales pour essayer de vraiment comprendre les fonctionnements de la drague, etc., mais de façon ludique et comme un jeu, parce qu'on faisait le parallèle en fait en disant qu'au final si on étudie vraiment les processus de séduction, C'est comme un jeu. Dans un jeu, t'as des règles, et quand tu connais ces règles, tu maîtrises mieux la chose, et donc ça te donne plus confiance en toi, et ça facilite les interactions. Et donc on a fait une histoire, un peu une histoire d'amour, tu vois. Donc c'était un peu cheesy et tout, mais c'était mignon. D'un mec qui était complètement naze, et qui, bah, tu sais, un peu la Hitch, tu vois, avec ouais. Will Smith, tu vois. C'était ouais. un peu ça le plot du jeu, quoi. Où tu te faisais, coaché par un gars. Qui était en fait le jeu qui te coachait, et puis derrière en fait tu deviens hyper bon, mais tu deviens un peu un connard, et en fait tu t'aperçois que bah être un connard c'est pas forcément une bonne chose, même si voilà tu te prends confiance, mais au final tu deviens un ouais. peu un connard. Et donc en fait ce qui compte vraiment, c'est au-delà de toutes ces techniques et de ce savoir-faire, c'est vraiment de comprendre ce que t'as envie toi, etc., et de poursuivre la personne qui te plaît le plus. Donc, voilà, c'était un peu ça le délire. Okay. Et puis derrière, il y avait vraiment une étude qu'on avait fait, comment essayer de transposer dans un jeu des mécaniques de séduction. Donc la dating sim, c'est vraiment un style de jeu qui existe depuis très longtemps dans le jeu vidéo, plus ou moins réussi, parfois très textuel, très justement orienté histoire, parfois orienté plus gameplay jeu. Nous, c'était vraiment entre les deux. On a essayé de développer un système d'intelligence artificielle où tu sélectionnais vraiment des phrases comme des techniques de combat entre guillemets,
okay.
Et que tu débloquais au fur et à mesure. Enfin, bon, voilà. Dans le contexte actuel, je t'avoue que c'est pas forcément facile de présenter ce jeu-là. À l'époque,
étiez jeune.
Ouais, on était jeunes.
Vous étiez des jeunes mecs.
Et il y avait vraiment aucune mauvaise intention derrière tout ça. Si tu regardes le truc aujourd'hui, tu pourrais dire ouais, quand même, c'était un peu chaud. C'est vrai que sur certains aspects, c'était un peu chaud. Et à l'époque, on se rendait pas forcément compte. Et puis on était jeunes en plus, comme tu dis. Mais voilà, il y a vraiment aucune mauvaise intention. Au contraire, c'était plutôt de se dire mettre les gens en confiance, en particulier les mecs qui ont du mal avec les filles, c'est pas forcément une mauvaise chose pour notre société, tu vois.
Ouais.
Si ça peut créer moins de frustration et plus d'écoute et plus d'entente, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà. Pour ça, on a fait des partenariats. Donc à l'époque, avec des mecs qui sont du coup maintenant un peu douteux, mais à l'époque.
Oh, les pick-up artistes,
voilà,
là.
Voilà, exactement.
Ok.
Mais ça a jamais trop marché, si tu veux. Notamment un des gars avec qui on devait faire ça devait nous soutenir, justement promouvoir auprès de sa communauté le jeu, etc. Et puis il nous a plus ou moins planté à la fin du projet. Donc on a sorti le projet sans lui.
Okay. Mais
du coup forcément aucun soutien marketing. Du coup bah le jeu s'est planté, quoi. On a vendu que dalle. On a dû vendre 10 000 unités en tout. Le jeu est même plus dispo. Voilà. Mais bon, on était quand même assez fiers du travail qu'on avait accompli. Le jeu était assez joli. On s'était vraiment vraiment fait chier à réfléchir à comment transmettre en règles de game design des règles sociales et des mécanismes psychologiques sociaux, et puis là de faire une histoire intéressante, rigolote, quoi.
Et puis j'imagine aussi que c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que quand tu mises tout ton plan sur un seul, enfin tu mets tous tes œufs dans le même panier sur ton plan de lancement, peut-être que si ça marche pas.
Exactement, ouais, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte que effectivement, si on aurait plus dû blinder le truc, on aurait sûrement pris autrement si on avait su que le mec allait nous planter. Il y avait un autre mec qui nous avait planté aussi. J'étais quand même allé en Californie pour le rencontrer. Le mec n'est jamais venu me voir alors que j'étais parti là-bas. Ça m'avait coûté une blinde et tout. Enfin, on a eu plein d'aventures comme ça, d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue production aussi. On a rencontré des mecs super qui ont travaillé avec nous, qu'on a dû gérer pendant 2 ans, des jeunes, des moins jeunes, des gens avec plein d'expérience, des gens avec très peu d'expérience. C'était vraiment super. Mais il y avait vraiment une bonne entente. Ça m'a appris plein de choses sur le management, aussi la relation que j'avais aussi avec mon associé. Comment gérer tout ça. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, on a fait de la prestation aussi parce qu'on avait zéro thune, donc il fallait qu'on se dise bon bah comment on peut faire, on a un peu de temps mais c'était compliqué, il fallait sortir le jeu. On a fait de la prestation, on s'est fait planter par des clients que je citerai pas, mais bon les gens connaissent dans le jeu vidéo.
Okay.
Donc voilà, pas la peine que je les enfonce plus que ça. On s'est fait planter, on a essayé de relancer. Moi, après, du coup, mon associé est parti parce que lui, bon, il n'avait pas forcément une âme entre guillemets d'entrepreneur. C'était quand même difficile. Il en avait un peu marre de galérer. Et puis, bon, lui, il n'avait pas aussi une famille qui pouvait le soutenir financièrement aussi longtemps que la mienne. Donc, à un moment, il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, il est parti. Moi, j'ai continué. J'ai quand même essayé de relancer un autre projet, notamment avec Stéphane Pérez. C'était un projet où t'étais dans le métro et c'était comme un Tetris avec les gens dans le métro, tu vois.
Okay.
C'était un truc à la con, un peu rigolo. Et je l'ai fait donc avec Stéphane Pérez. On avait monté ce projet à l'époque. Et aujourd'hui, Stéphane Pérez est Head of Design chez Dotemu.
Okay.
Donc, ça fait un bout de temps qu'on bosse ensemble. Mais ça, voilà, ça a jamais trop abouti. On a fait un dossier CNC, voilà. Et puis bon, maintenant, je me suis dit, bon, allez, ça suffit, ça, alors, ça marche pas.
Juste pour expliquer, le dossier CNC, c'est, en fait, le CNC qui finance les films, finance aussi
le jeu vidéo. Exactement. Ouais. C'est vraiment une grosse force qu'on a en France, qui a dans assez peu de pays en Europe, et qui fait que, heureusement, grâce à ça, la plupart des boîtes, et notamment les grosses boîtes, restent ici. Si on n'avait pas ça, tout le monde dirait au Canada, quoi, ou ailleurs, où la fiscalité est moins agressive, on va dire. Mais heureusement, on a ces aides-là, ces subventions-là, qui fait que le paysage vidéoludique français reste français et les gens partent pas. Donc voilà. Donc là, bah du coup, nous, moi, j'avais pas d'argent. Enfin, je pouvais peut-être réunir la moitié de la somme qui était nécessaire au développement de ce prochain jeu, mais on avait fait un dossier de CNC qui a été rejeté. Ouais. Voilà, c'est comme ça arrive hein, souvent, malheureusement, ouais. Mais il y en a quand même qui sont retenus et c'est bien cool. Mais donc voilà. Et donc du coup, je me suis dit bon, ça suffit. Maintenant, il faudra peut-être trouver un boulot qui rapporte de l'argent parce que ça va 5 minutes. Et puis, ce sera l'occasion de se faire une expérience. Donc j'ai postulé en tant que producteur cette fois, parce que justement j'avais pas cette expérience-là, ça me manquait. En tant que producteur dans pas mal de grosses boîtes, Gameloft, Ubisoft, Creative Assembly, en France, à l'étranger. Je suis allé pas mal loin sur un poste de producteur mobile à Abu Dhabi, avec Ubi, puis ça a complètement stagné. On m'a plus rappelé au bout de 3-4 entretiens, j'ai passé pas mal d'entretiens chez Gameloft aussi, enfin... Bref, ça avançait pas trop ces histoires-là, mais je m'accrochais parce que pour le coup, je pouvais encore une fois, comme j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent financièrement, je pouvais prendre le temps de vraiment trouver le job qui pouvait me lancer là où je voulais dans le jeu vidéo. J'aurais pu prendre d'autres types de jobs, mais c'était pas forcément hyper intéressant. J'allais faire ce que je savais déjà faire. C'est pas forcément là où je voulais aller. Donc, je recherchais activement, j'essayais de trouver ce que je pouvais faire. Et puis en fait sur cette, donc là ça faisait 2 ans et demi, j'avais 26-27 ans, qu'on avait monté la boîte, donc j'étais doucement en train de la faire mourir, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et puis en fait, à ce moment-là, mon père, lui, vend sa boîte qu'il avait achetée 10 ans auparavant. Donc il avait repris 10 ans auparavant. Mm-hmm. Il avait été embauché pour la redresser. Et puis au final, il avait flairé le bon truc. Et
il
voulait juste la redresser. Il s'est dit, bah, je vais la racheter.
Okay.
Pour qu'au final, le redressement me bénéficie à moi et pas aux
autres.
Oui,
bien sûr.
Et donc, il avait hyper bien réussi son coup. Il a vraiment bien mené sa barque pendant 10 ans, et donc il a réussi à revendre cette boîte beaucoup plus cher que ce qu'il n'avait acheté, et en très très bonne forme, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'a dit, écoute, moi je vais bientôt vendre la boîte, je vais du coup avoir un apport en cash important, il faut que j'investisse. Voilà, je peux pas le prendre pour moi parce que c'est absurde. Déjà, il saurait pas forcément quoi en faire. Et puis c'est méga taxé quand tu le prends pour toi. Et ce qui est plutôt une bonne chose. Comme ça t'incite à le réinvestir, dans une boîte ou quoi. Il dit, je vais le faire de toute façon. Il dit donc, moi je préférais que ce soit dans une boîte dans laquelle, toi tu bosses, quoi, tu vois, que dans une boîte, X ou voilà.
Ce qui est plutôt un bon signal.
Ce qui est plutôt un bon signal, ouais, voilà, c'est clair. Donc
si
moi, j'ai
daron,
fait OK.
Il te dit, une autre boîte, si tu veux, il y a un moment donné, tu peux te poser une question de merde.
C'est ça.
Peut-être
c'est
j'ai
ça.
Raté.
Exactement. Oui, parce que tu vois, pour le coup, il aurait pu, tu vois, il m'avait plus ou moins proposé de reprendre la boîte, tu vois, qu'il avait au lieu de la revendre, tu vois. Mais moi, ça m'intéressait vraiment pas du tout. Il l'avait bien compris. J'avais travaillé dans sa boîte, notamment pendant que je travaillais, que j'avais mon autre boîte. Pour un peu faire des sous, et puis avoir une activité quand il y avait vraiment des gros downtime, je travaillais pour lui. Et donc, mais bon, il voyait que ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. C'est de l'IT pur, donc banque, assurance, enfin, tu vois, voilà. Mais bon, il s'est dit, bah voilà, là, je vais avoir du cash de toute façon, faut que je l'investisse quelque part, je préfère l'investir dans une boîte dans laquelle mon fils bosse ou dirige, quoi. Donc, moi, j'ai fait OK. Mais je sais pas, moi, tu vois, ça se trouve pas comme ça, quoi, tu vois, une boîte à racheter ou quoi, ou à investir, je savais pas. Mais bon, comme pendant 2 ans, j'avais bossé dans le milieu et que je connaissais pas mal de monde, que j'étais rentré dans des réseaux de créateurs de boîtes de jeux, de dirigeants de boîtes de jeux, bah, j'ai fait passer le mot, quoi. J'ai dit à 2-3 personnes clés, voilà, fais passer le mot, est-ce que tu connais des boîtes qui seraient intéressées pour se faire racheter, pour faire rentrer un investisseur. Mmh. Et petit à petit, j'ai eu des retours. Et rapidement, est venu sur la table d'Otemu, quoi.
Ok. Voilà.
Que je connaissais un peu, j'avais déjà entendu parler pendant mon année d'études. Donc il y avait pas mal de temps déjà, ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais entendu parler de cette boîte. Et voilà, et donc il y a eu d'autres projets qui sont arrivés sur la table aussi. Donc on a tout regardé avec mon père et puis avec mes amis qui travaillent dans le jeu vidéo, qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. Et puis Dotemu s'est rapidement imposé comme un choix vraiment intéressant. D'un point de vue personnel et puis d'un point de vue business sur un créneau qui était très peu exploité où il y avait plein d'opportunités sur des types de jeux que moi j'adore parce qu'en plus à l'époque c'était beaucoup et encore toujours hein, mais ça revient un peu mais à l'époque c'était vraiment en mode le jeu mobile, le free to play, moi c'est des trucs qui me branchent pas trop et si tu voulais travailler sur de la console ou du PC il fallait travailler sur des très grosse production et donc c'était juste inaccessible pour un petit entrepreneur. Toutes les petites boîtes qui ont été créées à cette époque, c'était du jeu mobile ou du jeu Facebook, tu vois. Maintenant, c'est possible de faire du jeu console, mais à l'époque, c'était juste pas possible. Donc belle opportunité et en plus, donc je rencontre les fondateurs de Dotemu, Xavier Liard et Romain Tisserand, et on s'entend hyper bien. Ils sont un petit peu plus vieux que moi. Mais on se marre, voilà, c'est des mecs brillants. On voit qu'ils ont vraiment bien tout fait dans la société pour qu'elle. Ça faisait déjà quand j'ai repris la boîte, ça faisait déjà 7 ans qu'elle existait. Donc voilà, ça, eux, ils avaient déjà, eux pour le coup, ils étaient partis direct après leurs études là-dessus. Ils avaient réussi, contrairement à moi, à vraiment monter un truc qui tenait la route, qui marchait bien, etc. Donc voilà. Donc pendant un an, donc en discutant avec mon père, on s'est dit, ouais, ça c'est vraiment le truc, il faut qu'on regarde. Donc ça a duré un an, hein, c'est long. Le temps de se mettre d'accord, de vraiment tout vérifier, de tout mettre en place. Et puis au bout d'un an, on a signé. Xavier et Romain sont restés 6 mois pour m'aider à reprendre. Et puis voilà, après c'était fini. C'était moi tout seul et mon père, heureusement, quand même. Mais voilà, il y avait, à l'époque, il y avait 12 personnes dans l'équipe. C'était trop bizarre, quoi.
T'arrives?
J'arrive, j'ai 27 ans. J'avais une boîte avant, mais on était 5 et c'était dans mon appart, quoi. Enfin, tu vois, ça va rien à voir. Là, c'était des gens qui étaient en CDI, qui étaient là depuis longtemps. Bon. Et même, j'ai eu des gros doutes. Avant qu'on rachète, moi, j'ai dit à mon père, écoute, c'est cool tout ça, mais moi, je suis pas sûr que je vais y arriver, quoi. Tu vois, c'est un peu. Et lui il me fait non mais il me fait t'inquiète c'est mon argent hein. Si je pensais pas que tu peux y arriver je le ferais pas quoi tu vois donc j'ai pas envie de perdre mon argent tu vois donc il m'a dit je pense que tu peux le faire et tout j'ai fait ok si on est d'accord là-dessus ok tu vois et voilà et bon il a eu raison heureusement ça s'est bien passé donc là maintenant ça fait 5 ans voilà. Il s'est passé plein de trucs.
Bah, j'imagine, parce que déjà, vous êtes 30 là aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Vous avez plus que doublé la boîte.
Ouais.
La taille.
Ouais. En fait, il y a eu tout un travail de réflexion sur où amener la boîte à ce moment-là. Elle était déjà à un niveau intéressant. Les anciens fondateurs, eux, c'est juste qu'ils avaient envie de faire autre chose. Ça faisait 7 ans qu'ils faisaient ça. Ils n'avaient plus la force de repartir sur une autre stratégie, de relancer le truc. Mais la boîte marchait très bien, donc c'était pas du tout une boîte en difficulté, quoi. Donc c'est pour ça que nous on est arrivé, qu'on a tout racheté, quoi. Voilà. Parce que ils avaient plus d'intérêt à rester. Ouais. Ah, bon, il s'avère qu'ils ont remonté une boîte qu'on a rachetée ensuite, mais mais là ils sont restés cette fois. Mais ils sont malins les mecs. Non, mais parce qu'ils sont forts, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est voilà, on a envie de travailler avec eux, on a envie de les aider, quoi. Ouais, donc il
ouais,
y avait.
Tu parlais de la stratégie.
Ouais.
De Dotemu. De réflexion d'une nouvelle stratégie, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. En fait, à la base, Dotemu était vraiment spécialisé dans l'émulation.
Ouais.
Donc l'émulation, ça consiste à simuler une machine ancienne sur un PC ou un téléphone portable, du coup, un petit PC. Donc simuler une Super Nintendo, simuler une Mega Drive, simuler une borne d'arcade. Pour pouvoir jouer à des jeux à l'identique, voilà, en hackant certains aspects de l'émulation, tu peux changer les contrôles, mettre des menus, etc. Mais Dotemu spécialisait vraiment là-dedans, avait développé un savoir-faire en interne pour le faire technique, et puis un savoir-faire commercial pour vendre ça, ces projets-là, et à qui les vendre, et puis aussi comment aborder telle personne qui a la licence, etc. Et c'était, ça tournait vachement bien déjà ce qu'ils avaient fait, mais du coup ça stagnait parce que les licences, c'était déjà des belles licences qu'ils avaient réussi à avoir, mais en général, si c'était des belles licences, l'ayant droit conservait l'édition. Donc l'édition, c'est vraiment le fait de vendre le jeu. Ça peut être le fait de le produire, mais c'est aussi le vendre avec tout ce que ça comprend. Donc, c'est pas uniquement le marketing, ça va être aussi la distribution, etc. C'est vraiment l'ensemble de tout ce qui ne concerne pas l'aspect technique et créatif de la production. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement. Le développement, c'est vraiment les programmeurs, les artistes, les game designers, les chefs de projet, etc., qui vont travailler pour réaliser le projet. L'édition, ça va être les gens qui vont prendre le relais à un moment et qui vont commencer à distribuer, vendre, faire nouer des partenariats, etc. Donc, à l'époque, les très grosses licences, en général, les ayants droit gardaient les droits d'édition et payaient Dotemu pour réaliser le jeu, que le jeu fonctionne. Et à l'époque, Dotemu faisait quasiment que du mobile. Parce que c'était là où il y avait vraiment un manque, puis parce que c'était très difficile d'accéder aux consoles, et le marché, même au marché PC, c'était compliqué. Et donc, ils allaient sur mobile, et sur mobile, ils allaient mettre donc des jeux à l'ancienne, type Metal Slug, King of Fighter, donc ça, c'était des jeux...
Neo Geo,
mais t'avais aussi donc Another World, The Last Express, des jeux de bande d'arcade type R-Type, ouais. Raiden, etc. Tout ça sur mobile. Et ça marchait hyper bien. Alors, t'en as certaines, ils avaient quand même réussi à garder les droits, mais pas toutes. Et surtout que c'était certaines des licences vraiment niches. Vraiment, les gens qui connaissent bien le jeu vidéo, qui ont vécu à cette époque-là, voilà. Au-delà de ça, c'était compliqué. Et donc, du coup, il y avait vraiment un potentiel d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, ça veut dire investir plus, prendre plus de risques. Et ça, c'est ça où, quand t'as plus la force, quand t'as plus forcément envie de repartir en stratégie, prendre des risques, t'as encore moins envie. Donc nous, on avait cette idée de se dire, il faut prendre plus de risques, mais on voit que à plus petite échelle, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça marche pas à plus grosse échelle, avec des plus grosses licences sur des projets plus importants, plus longs, plus difficiles, et surtout hors du mobile, parce que le mobile, c'est bien, mais c'est un marché très compliqué, surtout pour les jeux qui sont pas gratuits. Alors que la console, c'est la plateforme du jeu à l'ancienne, quoi. Donc ça avait vraiment du sens d'aller vers ces plateformes-là avec des licences beaucoup plus importantes. Et donc, c'est cette stratégie-là qu'on a commencé à mettre en place tout de suite en arrivant, en disant, OK, la prestation, donc, faire des jeux pour d'autres boîtes, c'est bien, parce que ça permet d'avoir un beau portfolio, notamment avec des boîtes comme Square Enix, qui font Final Fantasy, ou SNK, qui font Metal Slug, King of Fighters. Donc, continuons de faire ça, mais essayons de réduire la part que c'est dans le chiffre d'affaires et d'augmenter la part dans laquelle où non seulement on le fait, mais en plus c'est nous-mêmes qui l'éditons. Donc on a beaucoup plus de bénéfices à retirer et aussi de visibilité en termes de société à retirer. Et donc on a commencé à vraiment tout mettre en place à tous les niveaux pour servir ce but-là. Et voilà, et donc du coup on s'est dit bah ok, donc les adaptations pures c'est cool, c'est ce qui était fait depuis le début, parce que tu gardes l'essence, l'expérience de base du jeu, tu peux la revivre à l'identique, mais derrière c'est peut-être intéressant aussi de faire des remakes.
Ouais.
C'est-à-dire du coup ça te permet un jeu qui est vraiment daté visuellement, bah de le remettre au goût du jour, mais le jeu est tellement génial que les gens en plus vont se dire mais c'est génial ce jeu, bah oui, mais ok, il était peut-être moche, mais regarde maintenant il est beau et en plus il est toujours génial. Et puis aussi de se dire bah peut-être des suites, quoi, se dire bah le jeu était génial, en faisant un nouveau, en reprenant l'esprit de base, voilà. Et donc dans cet esprit-là,
c'est quoi le premier jeu que vous sortez? Alors c'est Wonder Boy, c'est ça à l'époque?
Alors non, avant ça, on a fait d'autres trucs. Dans les gros projets qu'on a fait avant ça, on a eu, on a eu Titan Quest, ça c'était encore mobile, okay. C'était un très gros projet, très compliqué, mais ça c'était ça avait déjà été signé par les anciens fondateurs, mais j'ai repris la chose et on a essayé de le pousser à fond, et notamment d'un point de vue marketing, parce que pour le coup moi j'ai une formation vraiment en marketing, puis j'ai vraiment un bon feeling là-dessus, mmh. Et en plus chez Ubisoft j'ai fait ça, pour le coup les fondateurs d'Otemu étaient beaucoup plus côté ingénieur, donc il y avait tout cet aspect-là à développer chez Otemu qui était assez faible on va dire, même si quand même ils arrivaient à faire des trucs vraiment cool. Il y avait vraiment, on a beaucoup plus à faire. Donc, on s'est fait la main sur ce genre de production. Des innovations.
Fais gaffe à bien mettre ton micro.
Ah, pardon. Avec des, notamment des choses qu'on faisait pas avant, que j'avais appris chez Ubisoft, qu'on a appris même d'autres sociétés qui étaient un peu similaires. On a professionnalisé vraiment notre aspect marketing, lui a donné beaucoup plus d'importance. Et donc, on a acquis beaucoup plus de savoir-faire dans ce domaine-là, au fil des mois. Et puis on a lancé un très gros projet à l'époque, maintenant ça nous semble comme étant un projet beaucoup moins important, mais d'un point de vue taille, mais à l'époque il y a eu deux choses qui sont allées dans ce sens là puis après ça s'est enchaîné. Le premier donc c'était Pang Adventures, donc fait avec Pasta Games, donc dont le dirigeant est Fabien Delpiano, et donc qui était notre mentor durant mon MBA, et d'ailleurs c'est lui qui m'a remis en relation aussi avec les fondateurs de Dotemu. Donc du coup là on a pu bosser ensemble pour la première fois sur Pang Adventures. Donc là c'était un gros budget pour nous, c'était 350 000 euros même pour Dotemu, c'était vraiment imposant, c'était tout fait en externe, donc il fallait qu'on gère cette production aussi en externe. Et puis le marketing derrière, et puis c'était la première fois qu'on faisait sur console, mobile et PC sortie simultanée, quoi. Et c'est hyper chaud, et ça on continue de le faire aujourd'hui, et c'est toujours aussi chaud, sauf qu'à l'époque c'était juste un truc de malade. Et c'était pas forcément hyper stratégique d'ailleurs de l'avoir fait comme ça, mais on savait pas forcément, on l'a appris à ce moment-là. Et en fait, donc on a travaillé sur ça, c'était long, c'était compliqué, mais Pasta, ils font du super boulot, c'est vraiment un jeu qui leur plaisait, donc voilà. On n'a pas réussi à hyper bien le marketer. On a fait pas mal de petites erreurs. Mais surtout, il y a des choses qu'on n'a pas faites, tout simplement, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait le faire ou on n'avait pas compris comment le faire. Mais on a quand même réussi à le sortir en simultané sur plein de plateformes, à avoir des reviews, métacritiques, machin. Bon, et le jeu a eu plutôt une bonne réception. C'est juste qu'on n'a pas vendu des caisses. Et c'était plutôt un échec commercial. Donc, un peu flippant. Okay. Parce qu'on était dans le rouge d'au moins 200 000 euros à la sortie directe.
Pour expliquer un petit peu aussi comment marche le marché du jeu vidéo, mais si je me trompe pas, tout se joue dans vraiment les tout premiers jours du lancement.
Ouais. En fait, les premiers jours vont te donner une idée très très fiable de comment ça va se passer par la suite, quoi. Voilà. Si ça marche pas dans les premiers jours, il y a peu de chances que ça marche par la suite. Ça peut arriver, et c'est arrivé d'ailleurs pour Pang, mais sauf que tu vas forcément y arriver par d'autres moyens. Le moyen classique, tu vas tout de suite savoir, et puis tu vas peut-être avoir des opportunités dans le futur qui vont te permettre de compenser. Mais ces opportunités, tu les auras même si ton jeu il a marché, tu vois, entre guillemets. Ce sera du bonus en l'occurrence, mais voilà. Donc là, on était dans le rouge, mais on était quand même content parce que le jeu avait une bonne réception. On avait réussi à faire ce qu'on voulait faire techniquement et d'un point de vue marketing aussi. On avait réussi du coup, donc peut-être pas auprès du grand public, mais au moins au niveau de l'industrie, à montrer qu'on était capable de faire des trucs intéressants. Surtout dans le paysage français, qui est pas, tu vois, au niveau de l'édition, on n'est pas très nombreux de toute façon, donc on a réussi quand même à susciter un peu d'intérêt chez les gens qui travaillent dans l'industrie. Et puis on a signé à ce moment-là avec Nihon Falcom, qui est une boîte japonaise aussi hyper classique, qui font donc notamment la série des Is, qui est un JRPG, un RPG japonais méga connu au Japon et aux États-Unis, pas trop en Europe. Et là, on a signé du coup une adaptation console donc PS4, PS Vita de Is Origins, qui est un des plus meilleurs titres de la série, qui était déjà sorti sur PC en digital et qui avait eu beaucoup de succès. Enfin, en tout cas, un certain succès par rapport à ce que nous on avait à l'époque. Et donc, je m'étais dit bon bah voilà, il faut qu'on continue ce travail de remise au goût du jour de ce jeu sur console. Et on n'avait pas trop fait de console. On commençait à faire de la console avec Square Enix, où à l'époque on travaillait sur Final Fantasy VII sur PlayStation 4. C'était notre premier projet console. Et donc je me dis il faut qu'on aille plus loin encore, parce qu'au final, Pang Adventure, c'est pas nous qui l'avons fait en interne. Ouais. Is Origins, il fallait qu'on ait cette maîtrise de la console en interne. Et donc voilà. Mais sauf que comme c'est un jeu qui était assez connue, une licence assez imposante, qui a bien marché récemment sur PC, pour acquérir l'exploitation de cette licence, il a fallu débourser pas mal d'argent.
Gros chèque.
Et ça, c'est vraiment sans parler des coûts de développement, quoi. C'est, voilà. Et c'était un peu flippant, quoi. Mais voilà. Et ça, c'est encore une fois, grâce à mon père, qui m'a mis en confiance, quoi. Il m'a dit, bah oui, mais bon, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va marcher ou pas? Je dis, bah oui, ça devrait être pas mal. Bah alors, on le fait, quoi. Oui, mais c'est beaucoup d'argent quand même. Bah oui, mais bon, si on le fait pas, on fait quoi du coup? Je fais, je sais pas, on le fait, tu vois.
C'est simple.
Voilà, c'est...
Si on le fait pas, on fait quoi du coup?
Bah ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'est. Surtout quand tu commences une boîte, t'as toujours. Enfin, ça dépend des gens, mais en général, t'as toujours un aspect conservateur où t'as peur de faire une connerie, de placer ton argent au mauvais endroit, de tout perdre. Et que, du coup, de te sentir coupable par rapport à ça parce que c'est de ta faute, quoi. C'est toi qui as décidé de faire ça, c'est n'importe quoi, on a perdu tout le fric, on plante la boîte, tu vois. Sauf qu'au final, si tu fais rien, tu plantes la boîte quand même. C'est juste que ça prend plus de temps. La douleur est plus longue, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, mais ça, il faut l'apprendre, en fait. Et pour l'apprendre, il faut se donner confiance, il faut quelqu'un qui te donne confiance, qui te soutienne là-dedans. Donc, soit c'est ton équipe, soit c'est ton associé, soit c'est de la famille ou quoi. Là, en l'occurrence, moi, c'est plutôt mon père. Et bien sûr, ma mère aussi qui soutenait. Mais là, vraiment, je me souviens de la discussion au téléphone avec mon père là-dessus. Et ensuite, si là, pour le coup, ça, t'as un ou deux succès, tout de suite, tu vas dire, ouais, ok. C'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut faire.
C'est ça qu'il faut faire.
Il faut pas avoir peur, quoi. Il faut se blinder, comprendre tous les engagements qu'on prend et tous les tenants, les aboutissants. Mais il faut le faire. Sinon, tu fais rien et tu finis par crever, quoi. Donc voilà, donc ça a été vraiment deux trucs tournants. Le premier truc, c'était un échec commercial mais un succès à tous les autres niveaux. Et l'autre truc, c'était plus un pari vraiment où on rentrait dans un autre niveau et il fallait assurer derrière, mais ça c'était un des premiers pas sur cette stratégie là. Et puis ensuite tout ça ça prend du temps, hein. Faire un jeu vidéo ça prend du temps même dans ces conditions là.
Ouais.
Donc il s'est passé beaucoup de temps où on produit ces trucs là, il y a deux choses qui arrivent entre-temps. Donc notamment Wonderboy, notamment Windjammers. Donc Wonderboy encore une boîte externe dans le même aspect que Pasta Games, sauf que là on a pu vraiment mettre en avant notre expertise licensing sur les licences parce que le studio qui est venu nous voir, il disait ouais mais nous on n'a pas la licence, c'est trop compliqué à avoir, peut-être qu'on devrait mettre un faux nom pour être tranquille. Et moi, je leur ai fait, attendez, nous, c'est Dotemu, c'est notre job de faire ça, on va le faire.
Ouais.
Voilà, c'est hyper important, et on va y arriver. Et donc voilà, grâce à toute l'expertise de Xavier Romain à l'époque, qu'ils avaient déjà mis en place, au fait que tous les ans, je vais au Japon, je rencontre tous les ans les mêmes personnes, des vieux de la vieille, qui connaissent tout le monde, on a réussi à mettre ça en place. On développe une confiance auprès des business japonais dans le jeu vidéo et qui nous permet d'ouvrir certaines portes que d'autres n'arrivent pas à ouvrir. Et parce qu'on est français aussi, ça aide par rapport aux japonais.
Okay.
On partage beaucoup de valeurs et de visions de la vie, donc ils nous font beaucoup plus confiance. Et donc Wonderboy, pareil. Hein,
Wonderboy, vieille licence.
Très vieille licence.
Sur
Sega Master System, exactement. 8 bits, donc vraiment un jeu visuellement à l'ancienne, quoi.
Ouais.
Hein, vraiment les débuts du jeu vidéo. Console de salon, quoi. Mais derrière, un projet complètement génial de Lizard Cube. Et pareil, encore une fois, il a fallu prendre la décision de se dire, ouais, c'est un gros projet, on prend des risques, mais faut pas le laisser passer, quoi. C'est exactement ce qu'on veut faire. En plus, Lizard Cube, à l'époque, hésitait à aller le faire avec notre concurrent américain. Je me disais, si on rate ça, c'est trop con, quoi. Donc j'ai réussi à convaincre Ben et Omar de travailler avec nous à coup de « Allez, vas-y, vous n'allez pas aller voir les ricains, quand même !» voilà, et puis faire un deal qui convienne à tout le monde, et puis mettre les sous qu'il fallait mettre, quoi.
Ça a bien marché.
Et ça a très bien marché.
Wonderboy.
Ça a très bien marché. Donc, East Origin, Windjammers et Wonderboy sont sortis en 2017. J'avais fait l'acquisition de la boîte fin 2014.
Ok. Voilà.
Donc tu vois, il y a eu du temps quand même avant que donc il y a eu Pang qui était sorti avant. On avait fait d'autres sorties, mais on restait à un niveau. On montait petit à petit, mais on restait plus ou moins dans le giron, dans l'inertie de ce qui avait été fait avant. Ça a vraiment pris au bout de deux, trois ans, où là, vraiment, on a sorti les projets de la nouvelle stratégie, ouais, qui était ce trio de projets, East Origin, Windjammers, Wonderboy. East Origin, adaptation directe d'un jeu existant, développé en interne, mais une grosse licence, donc bien connue. Windjammers, licence moins connue, mais jeu super, pareil, adapté en interne et publié 100% par nous. Et Wonderboy, fait avec un studio externe, et qui est un remake, du coup, qui, ouais, allait dans cette idée de pas uniquement faire des adaptations, mais faire des remakes. Et Pang Adventures, une suite aussi, ouais, voilà, mais qui avait été, du coup, sur lequel on s'est un peu fait les dents, parce qu'on connaissait pas cet univers-là encore, et que, bah, la licence était pas hyper connue non plus, donc on s'attendait pas, voilà, mais. Et Wonderboy non plus, on s'attendait pas non plus, voilà, mais comme le projet était tellement génial et l'exécution du projet était tellement parfaite, que ça, on a appris aussi que la qualité derrière, c'est ça qui fait beaucoup, quoi.
Ouais, ouais. 3 ans quand même pour avant.
3 ans pour arriver à vraiment se dire ok, c'est la bonne stratégie. Quoi.
Ouais.
Là, on n'avait plus de doute, quoi. Au sein de l'équipe, tout le monde a pris la confiance. Moi-même, j'ai pris de la confiance. On s'est dit voilà, on a pris le bon chemin, on a pris les bonnes décisions. Au début, c'était un petit peu difficile, mais globalement, c'est les crescendo. Et là, on a vraiment conclu en 2017 sur quelque chose de merveilleux, que je souhaite à tous d'avoir un succès, même si ça dépend bien sûr de l'échelle de chacun. Mais à notre échelle, c'était un vrai succès. En plus, qui était un plus ou moins inattendu. Et c'est complètement génial, quoi, comme sensation de se dire bon bah c'est bon, j'ai fait les bons choix, je me suis pas planté. Maintenant, on passe, on continue, quoi. Et on essaie de faire encore mieux. Voilà.
Et donc là, plus dernièrement, en fait, sont sortis une deuxième vague, si je me trompe pas, de ces jeux de nouvelle stratégie.
Ouais.
Et donc là, vous avez sorti très récemment Windjammers 2, donc la suite.
On l'a pas encore sorti.
Ah, il est pas sorti.
On a sorti la démo là récemment.
Ah.
On a sorti une démo avec 3 joueurs sur 10 jouables. Ouais, sûrement. Ouais, tu as vu. Il y a pas mal de gens qui l'ont streamé pendant la démo. Mais ouais, donc là, cette année, Street est sorti, Street of Rage 4.
Alors ça, c'est pareil, c'est un jeu, pour le coup, là, c'est pas un remake, c'est un...
C'est une suite.
C'est une suite, ouais, d'une licence qui était, exactement, énormissime à l'époque, ah ouais, sur Mega Drive.
Et ça, tu vois, c'est vraiment grâce à Pang dans un premier temps, puis Wonderboy qui nous a donné la confiance, où on s'est dit, bah vas-y, on peut tenter Street of Rage, quoi. On peut y aller, et puis voilà, encore une fois, on a eu raison de le faire, quoi. On a eu beaucoup de chance sur plein d'aspects, mais on a quand même eu raison de se bouger et d'aller chercher ce projet-là, quoi. Et ça a pris 2 ans et demi aussi à faire Street of Rage 4, donc c'est long, hein. Et encore, c'est par rapport à la moyenne des jeux dans le jeu vidéo, c'est pas si énorme, oui, que ça, quoi. C'est plutôt rapide même. Donc voilà, ouais, là cette année, on a sorti Street of Rage 4, Windjammers 2 devrait sortir cette année aussi. Et puis on a encore sorti une nouvelle branche de notre stratégie en 2018. Justement, grâce au succès des différents projets qu'on a eu en 2017, où en 2018, on a créé une nouvelle marque qui s'appelle The Arcade Crew, qui elle est 100% dédiée à aider des jeunes équipes de développeurs hyper talentueux qui ont des projets justement qui ont une ADN un peu rétro, et de mettre tout notre savoir-faire de développeurs et d'éditeurs à contribution pour faire de leurs projets des succès, quoi. Voilà. Et ça, on a décidé de le faire parce que on adore travailler sur des licences anciennes, mais on adore jouer à des jeux récents, des jeux indés notamment. On est tous très joueurs indés au bureau, et on trouvait ça dommage qu'il y ait plein de projets indés qui, un, trouvaient pas d'éditeur, et deux, qui s'autopubliaient et qui foiraient complètement alors que le jeu était cool, quoi. Et qu'on savait que si nous on avait été derrière, on aurait pu vraiment propulser le jeu bien plus loin dans le succès, quoi. Donc on a décidé de créer cette marque-là parce que ça nous amusait, quoi. On n'a pas besoin de le faire d'un point de vue purement business, stratégique, hein. Dotemu se suffit à lui-même, mais on a envie de le faire, ça nous intéresse. Et puis ça peut devenir intéressant d'un point de vue business à terme aussi, quoi.
Oui, c'est forme d'école. Enfin, t'es en train de.
Ouais, exactement. Ouais. Mmh. Ouais, on apprend aussi. C'est complètement différent parce que là, Dotemu donc continue d'être consacré uniquement à des licences existantes. Préexistantes, alors que The Arcade Crew c'est que des nouvelles licences. Donc quand on va voir un journaliste et qu'on lui montre un jeu comme Street of Rage 4, on n'a rien besoin de rien lui expliquer quasiment. Au contraire, c'est lui qui tout de suite va poser des questions. Ah mais c'est quoi et machin, etc. On va lui montrer un projet comme Young Souls qu'on est en train de développer actuellement. Il va falloir tout expliquer, convaincre, montrer. C'est vraiment un autre travail. Mais il y a énormément de points communs avec ce qu'on fait, et surtout on a une très grosse expérience dans toutes ces autres choses qui sont pour le coup similaires et dans lesquelles voilà, on se plante plus, on sait ce qu'il faut faire, on arrive bien à accompagner les studios et même sur l'aspect production en fait.
Voilà. Tu parlais des journalistes, c'est pas par hasard, c'est que les journalistes et d'une manière générale, tu parlais tout à l'heure des reviews,
ouais.
ça j'imagine un énorme impact.
Ouais.
Sur la façon dont le jeu va être reçu et le jeu va être acheté, quoi.
Bien
c'est
sûr.
Ça
en fait, si tu veux, c'est à notre niveau, hein. Donc, t'as différents niveaux dans le jeu vidéo. Tu vas avoir le triple A. Donc, ça, c'est les gros blockbusters, Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA. Voilà. Ça, c'est des jeux qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros à fabriquer, qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros à promouvoir. Et là, on est sur des logiques de marketing et de publishing très proche de ce qu'on va voir dans le cinéma, dans la musique, sur des énormes groupes, pub télé, etc. En dessous de ça, tu as ce qu'on appelle le double A, donc c'est des productions assez significatives, plutôt des dizaines de millions d'euros ou des millions d'euros de budget. Là, on va être un peu entre les deux. Ça va être entre du marketing guérilla, bouche à oreille, et du marketing classique, affichage, espace publicitaire. Et puis après, tu vas avoir notre niveau à nous, qui est plutôt sur l'indé, ou ce qu'on appelle du triple I, du gros jeu indé, où là, effectivement, ça va beaucoup se jouer sur le bouche à oreille, beaucoup se jouer sur les influenceurs, sur
le stream, on parlait
la communauté, le stream, et puis la logique de distribution. Voilà, si tu, à notre niveau, négocier un emplacement sur un store comme le PlayStation Store, c'est énorme. Voilà, ça va vraiment avoir une influence sur nos ventes. Alors qu'évidemment, pour un Assassin's Creed, de toute façon, il y sera, parce que
c'est impossible.
Le consolier, lui, il a envie de le mettre en avant, ça met en avant sa propre console. Bon, Street of Rage 4 va pas mettre en avant la PS4, quoi. Mmh. Voilà. Donc, faut trouver d'autres billets pour les intéresser. Pour leur dire, ouais, mais le jeu, il est trop cool, tu vois. Ah ouais, il y a une communauté qui est prête à l'acheter et à le suivre longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des approches différentes. Et donc, effectivement, au-delà de l'aspect journalistique, ça va être, en fait, il va falloir convaincre tout un panel de personnes. Donc, ça va être des journalistes, des influenceurs, mais aussi des gens du business. Donc, notamment qui travaillent chez Sony, Nintendo, Microsoft, Valve, etc. Parce que eux, derrière, s'ils aiment bien ton jeu, ou s'ils trouvent que c'est cool, ou s'ils se disent, tiens, ma communauté, mes clients vont aimer ça, bah, ils vont te le mettre en avant, ils vont en parler, et là, ça va lancer la machine du bouche à oreille. Et derrière, si en plus ton jeu, il est bon, très bon, là, c'est parti, quoi. Parce que le bouche à oreille marche du tonnerre, et parce que, du coup, voilà, la qualité va vraiment propulser ton truc. Mais c'est toi qui vas donner l'étincelle de départ, en fait. Voilà.
C'est quoi les projets pour Dotemu là à venir? Alors tu parlais d'Hier Card Crew, mais vous avez des projets dans les
tuyaux? Ouais, bah en fait,
tu peux sans doute pas parler.
Bah je peux pas en parler. On a trois grosses productions là au niveau de Dotemu actuellement, du même style que Street of Rage 4, on va dire même gabarit.
Donc des gros jeux indés, quoi.
Voilà, des gros jeux indés. Et ça, tu vois, pareil, hein, c'est un pari, hein, parce que on a eu un succès, gros succès en 2017. Et c'est un peu le problème de toutes les industries du divertissement, c'est-à-dire que tu sais jamais trop quand ça va tomber. T'essayes, hein, tout le temps, bien sûr, mais parfois ça tombe pas forcément là où tu l'imaginais, et parfois ça tombe pas du tout. Et donc c'est très en dents de scie, tu vois. Tu vas avoir un gros succès une année, l'année suivante, rien. Donc ça va redescendre tout de suite ton chiffre d'affaires, ta capacité d'investir, etc. Donc faut se maintenir tout le temps la tête au-dessus de l'eau, c'est très compliqué. Et surtout, ça t'incite pas forcément à investir. Parce que tu te dis, ah oui, mais là, du coup, j'ai plus d'argent pour investir. Oui, mais du coup, si t'investis pas, bah, t'auras plus jamais de phase ascendante, tu vois. Et donc, du coup, il faut toujours se dire, bah, il faut pas attendre, en fait, quoi. Donc, faut pas attendre le prochain succès. Il faut le faire avant. Parce que sinon, ce sera toujours en dentille. T'auras toujours des problématiques, de manque d'argent pour investir, tous les X cycles, quoi. Donc là, pareil, sur ces trois projets-là, on savait pas que Street of Rage 4 allait cartonner, ou moins autant, on espérait. Je me disais quand même, tu vois, on fait toujours en sorte d'être le plus carré possible et de prendre le moins de risques possible, c'est-à-dire que dans les pires scénarios, on s'y retrouve.
Ouais.
Mais c'est dur, quoi.
Ouais.
Et puis c'est dur, et puis ça dépend quand ça arrive, tu vois. C'est ça le problème, parce que dans le jeu vidéo, t'as la problématique aussi du timing, où tu décales souvent les projets. Si tu privilégies la qualité, t'es obligé de décaler, et tu sais pas combien de temps, et t'essaies de maîtriser ça, c'est très compliqué. Donc tu te dis, bah c'est pas grave, moi je prévois que de toute façon l'argent de ce jeu là il va arriver, j'en sais rien, en janvier, puis au final il arrive pas avant août. Donc là, c'est 6 mois, tu les avais pas prévus, il y a rien qui rentre, quoi.
rien.
Donc, si t'as investi dans d'autres trucs entre temps, il va falloir pouvoir les financer, ces trucs-là. Donc voilà. Et donc là, les trois projets qu'on a, effectivement, bah, justement, pour éviter un peu de retomber dans ce cycle de Dancy, j'ai décidé de prendre le risque de dire, bah, en ayant la confiance du succès potentiel de Street of Rage 4 et des autres projets qui vont suivre cette année, et puis The Arcade Crew, etc., je me suis dit, bon, allez, on se lance, et comme ça, au moins, si ça marche comme prévu, bah, derrière, on enchaîne, quoi. On n'attend pas de recevoir l'argent pour réinvestir dans des prochains projets. Ça prend tellement de temps, au final, que si j'avais attendu, bah, les prochains projets, ça n'aurait pas été avant 2022, ouais. 2023, quoi. Et là, potentiellement, ce sera 2021 qui vont sortir. Bon. Ou peut-être 2022, on verra. Ouais, hein, à chaque fois, ça décale, mais ouais. Bon. C'est, voilà. C'est, donc là, du coup, on est vraiment dans une logique de continuité, et c'est comme ça que ça marche bien, et c'est comme ça que les gros arrivent à le faire, c'est qu'ils ont une capacité d'investissement, une prise de risque continue. Qui fait que bah, peu importe les succès, les défaites entre guillemets, ça s'équilibre et ça va toujours vers le haut quoi. Donc voilà, donc là on a trois projets avec Dotemu qui sont pas annoncés, on va en lancer un normalement dans pas trop longtemps, et puis avec The Arcade Crew on vient d'annoncer notre dernier projet qui s'appelle The Last Spell, qui s'est fait avec un studio de Lille, CCCP. Et puis on cherche de nouveaux projets pour The Arcade Crew là pour 2021-2022, voilà. Okay. Mais comme on est assez exigeant dans la qualité qu'on veut avoir et qu'on n'est pas forcément pressé, encore une fois on n'a pas besoin de The Arcade Crew pour vivre, et ben on est très très dur à la sélection et donc on, voilà, on galère parfois à trouver des projets, mais c'est comme ça. Plutôt que de prendre n'importe quoi, on préfère rien prendre quoi.
Je comprends. J'ai un peu l'impression de ce que tu racontes de ton histoire que toi-même tu t'es émancipé aussi. J'ai l'impression que t'as fini par gagner confiance aussi.
Ouais, vois, complètement.
Sur les dernières années.
Ouais, là, ouais, complètement. C'est ouais. Clair. Bah forcément, en fait, au début, et ça c'est vraiment le truc où j'ai encore eu énormément de chance, c'est que mon père, et ça c'est génial, c'est-à-dire que mon père donc a été entrepreneur toute sa vie quasiment. Si j'avais été producteur chez Ubisoft. Bah, il m'aurait jamais appris tout ce qu'il sait. Donc, le fait que moi aussi je devienne entrepreneur et que ça me plaise et que je m'y mette sérieusement et que j'essaie de faire au mieux, bah, ça lui a permis vraiment de me transmettre plein de trucs, quoi. Eux-mêmes ont mis en confiance. Ça m'a permis d'éviter de faire plein de conneries. Pareil, ma mère, tout ce qui est ressources humaines. Je veux dire, j'aurais pu planter la boîte 20 fois, je pense, sans elle, quoi. Parce que, des décisions en ressources humaines peuvent t'amener vraiment à des catastrophes totales, quoi. Tu vois. Et tout ça, si t'as pas l'expérience et que personne est là pour te la donner, bah, t'as une chance sur deux de te planter, quoi. Et donc moi, en ayant cette espèce de duo RH business avec mes parents, ça m'a évité plein de conneries, machin, et ça m'a permis aussi de moi-même du coup m'approprier ces expériences là pour tracer mon propre chemin et ma propre expérience. Et du coup, une fois que ça marche, bah là forcément on se dit bon bah c'est bon, ça y est, je peux m'en sortir tout seul maintenant, je comprends, j'ai bien compris, j'ai réussi à choper des réflexes, j'ai plus besoin forcément de consulter systématiquement ce que je faisais vraiment beaucoup au début, ouais. Et en fait petit à petit de moins en moins, mais je continue de le faire encore aujourd'hui. C'est très difficile de prendre des décisions tout seul de toute façon,
oui.
C'est pas du tout mon style, sauf qu'il y a des décisions que tu peux pas les prendre avec tes employés, c'est pas possible parce que ils ont forcément une vision biaisée par rapport à leurs propres intérêts en tant qu'employé, en tant que personne, par rapport à leurs envies aussi personnelles. Ils ont pas les mêmes engagements, ils ont pas les mêmes conséquences potentielles sur eux, et ils ont pas forcément non plus la vision d'ensemble qu'on peut avoir quand on dirige une boîte. Donc moi j'essaie au maximum de demander justement aux membres de mon équipe leurs avis, etc., mais parfois il me faut un avis un peu plus externe et plus global, plus stratégique, et heureusement mon père est là encore aujourd'hui pour me donner des super conseils et aussi parfois juste confirmer mes intuitions, ouais. Quoi. Voilà.
Bah, pourvu que ça dure.
Bah ouais, c'est clair. C'est clair.
Bon, merci beaucoup, Cyril.
Mais de rien.
C'était super.
Ouais, bah cool.
J'ai appris plein de choses. Moi, je mettrai tous les liens si jamais, ouais, pour les gens dans les notes du podcast qui veulent découvrir votre univers, etc., etc.
C'est super.
C'était très cool. Merci à toi.
Non, merci.
Ciao.
Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit, comme toujours avec les podcasts de Fab Florent.
restaurant, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.